Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
Deviens qui tu es depuis toujours, c'est une phrase de Jung, hein, ce psychiatre suisse que j'adore, que je cite très souvent dans mes transmissions. Et cette phrase, elle est tellement puissante. Hein. C'est deviens qui tu es, mais alors le depuis toujours. Ça, c'est tellement, c'est la touche finale. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est d'arriver à recontacter sa nature profonde, ce fameux talent. Pourquoi on s'est incarné là, dans cette vie, qu'est-ce qu'on a à y faire? Et le faire. Hein, parce que il y a des gens qui sentent ce pourquoi ils sont faits, mais après, il y a des freins. Hein, la vie nous met des freins, il y a notre histoire, plein de raisons assez connues. Il y a la psychologie, mais pas que. Et de pouvoir dépasser ça, hein, traverser les peurs, notamment, et répondre au pourquoi pas moi, tu vois.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui Gwenaëlle. Gwenaëlle a fait 10 ans de marketing dans l'univers agroalimentaire. Et en parallèle de son travail, elle a décidé de se lancer pour reprendre ses études et devenir psychologue. La vie lui aura envoyé un joli cadeau mal emballé, avec un licenciement brutal. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Gwenaëlle est à sa place. Elle est psychologue, clinicienne, psychothérapeute, auteure et formatrice. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gwenaëlle Percio.
Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, j'ai choisi une petite statuette en cuivre qui vient du Pérou, que j'ai achetée il y a 10 ans à peu près, lors d'un voyage. Et en fait, c'est une Pachamama. Alors, ce qu'on appelle la Pachamama chez les Indiens, c'est la terre-mère, qu'on appelle aussi Gaïa. Donc cette petite statuette, je l'aime beaucoup, elle me suit depuis, elle est toujours visible en fait chez moi. Et je l'aime beaucoup parce que ça représente vraiment la mer, la terre, et j'ai choisi cet objet pour me représenter à cet endroit-là en fait, du côté un peu maternant que je peux avoir, entre autres, hein, je suis pas que ça, mais en tant que thérapeute quand même, j'ai on va dire un féminin assez développé pour écouter, pour accompagner, pour aussi réconforter évidemment. Voilà, et puis cette statuette, c'est aussi le lien avec la nature, notre nature profonde en fait, hein, liée à la terre, liée à nos origines animales. Donc j'avais envie de rappeler que nous venons de la terre et nous retournerons à la terre, et parfois on oublie ce sacré en nous.
C'est sûr. Et avant qu'on parle de ta découverte de tout ça, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi dans le nord de la France, où près de la frontière belge. Je suis née à Roubaix et après j'ai grandi donc vers Villeneuve-d'Ascq, pour ceux qui connaissent, dans le nord. Et je suis partie vers 17 ans, ouais, assez tôt en fait. Donc c'était une enfance assez morne quand même, hein, assez flat, j'ai envie de dire, assez plate, comme le plat pays d'ailleurs. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, qui est toujours un signe quand même pas terrible, parce que c'est en lien avec une certaine amnésie. Après, je vivais quand même dans une campagne urbaine, on va dire, mais campagne quand même. Donc ça, j'ai quand même des beaux souvenirs, tu vois, de neige dans le jardin, de carnaval dans le village. Ça, c'est des chouettes souvenirs.
Et t'étais quel type de petite fille?
Je pense que j'avais des copines et c'est important pour moi, mais j'avais aussi un univers intérieur, je pense, assez fort, notamment avec les livres. Ouais, c'est des bouquins qui m'ont aidée très très tôt. Notamment quand j'étais, je devais avoir 10, 11 ans, je lisais déjà pas mal et je lisais beaucoup de mythologie. J'étais passionnée par la mythologie gréco-romaine. Tous ces personnages, ces histoires incroyables. Je crois que ça m'enseignait aussi à un niveau subtil plein de choses.
C'est sûr. Et est-ce que tu te rappelles de tes rêves quand tu étais petite fille?
Pas vraiment, non. Non, je crois que ça fait partie un peu des zones un peu sombres. Si ce n'est que si je me souviens d'un, c'est pas vraiment un rêve, mais j'avais envie que ma vie démarre. Ça, c'était plus à l'adolescence quand même. Hein, mais je pense à ça aussi parce que j'ai un ado qui a 16 ans là et qui est un peu dans cette même énergie d'avoir envie que la vie elle démarre vraiment, de grandir, de partir. Et moi, je vivais ça, c'est sûr. J'avais qu'une envie, c'était d'être assez âgée pour prendre ma petite valise et voguer et voyager par le monde. Ce que j'ai fait d'ailleurs assez jeune puisque je suis partie à 17 ans en fait.
Pourquoi t'es partie aussitôt? Parce que t'en avais envie, mais comment t'as pu partir aussitôt?
En fait, j'ai eu mon bac à 17 ans parce que j'avais un an d'avance et j'ai fait juste après le bac une année de prépa en pension. Donc je suis partie en fait à 17 ans et quelques mois pour faire cette année de prépa
qui était... Une prépa en quoi?
En prépa HEC, donc en commerce, à peu près 40 bornes de chez moi. Et je revenais donc que le week-end. Et un an plus tard, puisque je n'ai fait qu'une année de prépa, je suis partie à Nancy, donc là, beaucoup plus loin, à 500 kilomètres. Et je suis jamais revenue dans le Nord, jamais. Enfin, j'ai vécu à plein d'endroits dans le monde même, parce que j'ai vécu un peu à l'étranger. Mais je suis jamais retournée là-haut.
Parce que du coup, tu as fait quoi comme étude?
Donc j'ai fait une école de commerce en fait moi.
Donc après du coup juste un an de prépa.
C'est ça. En fait j'ai choisi cette voie. Enfin choisi. Hein. Qu'est-ce qu'on choisit vraiment? Je sais pas. Mais en tout cas à l'époque c'était pas un vrai choix c'est sûr. Qui était guidé surtout par le désir de faire plaisir à mon père. Qui était un ingénieur, entrepreneur, qui valorisait beaucoup la réussite, l'argent. Et moi comme beaucoup de jeunes, je pense, dans ces eaux-là. J'étais assez déconnectée de moi-même, de mes désirs profonds. Donc, j'ai suivi ça. En plus, j'étais plutôt bonne en maths. Donc, il y avait quelque chose d'assez, tu vois, assez logique, entre guillemets. Et je regrette pas, hein, parce que j'ai quand même vécu des choses très belles pendant ces 10 ans, puisque j'ai fait après, donc 10 ans de marketing, un peu de commercial, mais surtout de marketing. Et ça m'a permis aussi de voyager, vu que je gagnais plutôt bien ma vie. J'habitais à Paris, j'ai vécu des choses très chouettes, très très vivantes aussi, très pleines, mais pleines d'un certain comment dire, c'était beaucoup vers l'extérieur quoi, c'était peu vers l'intérieur.
Ouais. Et du coup là donc tu fais cette prépa HEC, tu intègres du coup une école après un an, et qu'est-ce qui t'emmène vers le marketing?
J'ai choisi la filière marketing parce que je trouvais que c'était la plus fun. La finance, ça me paraissait ennuyeux comme la pluie. Les autres, ça me parlait moins. Et là, je me suis dit, ah, il y a à la fois de la pub, du graphisme, un peu de commerce, des études, enfin, plein de choses diverses, en fait. Et effectivement, hein, c'est quand même à ça que correspond ce métier. Et puis, très relationnel aussi, beaucoup. Donc je pense que ça a sûrement guidé, sans que j'en ai vraiment conscience, je pense, là aussi, mais mon choix. Et c'est un bon choix, pour le coup, par rapport à qui j'étais à l'époque.
Et t'étais dans quel univers, du coup, dans le marketing, parce que y a plein de branches différentes?
Moi, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, exclusivement.
Ok. Donc pendant 10 ans?
Pendant 10 ans, j'ai fait des boîtes, des grosses boîtes, comme on dit. J'ai travaillé un peu chez Danone, chez Kellogg's, chez BN de Lacre, et j'ai terminé avec vers chez moi, là où j'habite maintenant, à Lyon, avec les compotes maternes. Donc tu vois, que de l'agro, que de la grande distrib aussi. Donc un univers quand même assez sympa. C'est quand même sympa de faire du marketing sur des produits comme ça.
Et t'es tombée, enfin t'es une grande fan de d'agroalimentaire, ou c'est plus le hasard qui t'a guidée là et après t'es restée dedans?
Je sais pas s'il y a un lien, tu vois, j'y avais jamais réfléchi avant, mais quand j'avais 20 ans, j'avais des sacrés problèmes avec l'alimentation. J'avais, on pourrait dire, des troubles du comportement alimentaire, hein, de type plutôt boulimique. qui m'ont conduit d'ailleurs à aller voir ma première psychologue quand j'avais 21 ans. J'étais assez jeune. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre cette compulsion hein, qui était là pour remplir mon vide intérieur et mon choix de secteur d'activité, peut-être, sur un plan subtil, c'est possible.
Ça m'a donné des frissons quand t'as dit ça.
Alors, peut-être c'est juste.
Il y a peut-être un truc qui se cache derrière. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu décides de quitter cet univers comment ton corps te parle?
Alors, j'ai décidé déjà de reprendre des études de psycho alors que j'étais encore en exercice. Hein.
T'avais quel âge?
J'avais 28 ans exactement quand je rentre à la fac à Paris 8 avec anciennement le CNED, donc l'enseignement à distance. Et j'ai fait mes 7 années de fac de psycho à distance comme ça avec cette fac parce que je travaillais. En plus après je suis tombée enceinte, j'ai eu mes enfants, donc je pouvais pas aller en fac en présentiel. Et puis ça m'allait bien, moi j'ai un côté aussi très autonome. Et puis passionnée, donc c'était des études qui sont pas faciles, c'est sûr, mais j'étais tellement dedans que j'ai pu faire les deux, même si c'était quand même beaucoup de boulot et certains sacrifices aussi.
Quel sacrifice ?
Ah bah, j'avais pendant toutes ces années, je faisais quand même pas beaucoup d'autres choses que de bosser pour mon boulot de salariat, bosser pour mes études et m'occuper de mes gamins quand même, mais pas autant que j'aurais voulu, tu vois. Et puis c'est tout quoi. C'était un peu une vie de dingue.
Tu as combien d'enfants ?
J'ai deux enfants qui sont ados maintenant.
Ok. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené à dire je vais reprendre mes études ?
Eh bien c'est d'aller moi-même en thérapie en fait. La première psy que j'ai rencontrée, donc quand j'étais toute jeune, je me souviens très bien être sortie de son cabinet et de me dire waouh, quel métier quoi. Donc j'en étais pas encore à me dire je ferais ça, mais d'avoir eu un peu une espèce d'éclair de conscience sur ce métier que je ne connaissais pas, parce que moi dans ma famille la psychologie c'était pas du tout un sujet. Et puis j'ai jamais cessé d'être en thérapie depuis, donc j'ai après continué différentes formes de thérapie, et plus je travaillais sur moi, plus je découvrais ce métier, ce champ-là qui était donc nouveau pour moi, plus je le trouvais passionnant. Et en fait, il y a eu une étape assez maîtresse, c'est que j'ai fait une formation en PNL qui est très à cheval pour moi entre mon ancienne vie et ma vie d'après, ma vie actuelle maintenant de psy. Et parce que la PNL, c'est quand même très ancré sur le concret, sur la communication, donc ça sert à plein d'endroits et notamment en entreprise. Et j'avais décidé de faire de la PNL pour régler mes problèmes de régulation émotionnelle, parce que j'étais quand même assez écorchée, donc émotionnellement fragile. Et on m'avait parlé de cette technique-là, puis tiens, ben, je vais aller un peu plus loin que juste mes séances de psy, je vais aller me former. Au début, un peu, tu vois, par curiosité. Et puis alors là, ben, je suis un peu plongée, je suis tombée dans la marmite, comme dirait Oblix. Puisque j'ai découvert non seulement la psychologie, la relation d'aide, l'accompagnement, et puis aussi des personnes qui exerçaient, avec qui je pouvais parler, tu vois, comme tu parles entre stagiaires, de ce qu'ils font. Et là, je me dis, mais en fait, ce métier est vraiment, vraiment formidable. Et c'est comme ça qu'après, j'ai décidé de m'inscrire à la fac et un jour, je suis devenue psychologue, donc à 35 ans.
Ouais. Donc du coup là, tu te dis ok, tu te formes à la PNL, tu dis waouh, c'est incroyable. Finalement, tu décides de t'inscrire en fac de psycho. Comment réagit ton mari, ton entourage?
Ouais, ça c'est une bonne question. Merci. Mais au début, je pense que le père de mes enfants, il a pas vraiment de... Ah non, c'est pas encore le père de mes enfants, puisque, qu'est-ce que je dis, j'étais encore à Paris, en fait. J'étais à Paris, j'avais pas d'enfant, puisque mon premier enfant, je l'ai eu à 30 ans, tu vois, donc j'étais en troisième année de licence quand j'ai eu mon premier. Et le père de mes enfants, je l'ai rencontré peu de temps avant. Donc, quand je démarre mes premiers pas dans la psychologie avec la PNL, j'ai ma vie parisienne, tu vois, avec mon boulot, mes copains, mes sorties, je faisais beaucoup de danse aussi à l'époque, de salsa, des choses comme ça. Et donc voilà, donc je vis ma vie quoi. Là où ça a commencé un petit peu à grincer effectivement, c'est quand je rencontre le père de mes enfants, je suis déjà engagée là-dedans. Mais là où ça commence à grincer, c'est quand ça commence à devenir plus engageant en termes de temps consacré. Parce qu'à un moment, il faut commencer à faire des stages, par exemple. Donc en troisième année de licence. Et puis après, en master, c'est de plus en plus important. Et là, le père de mes enfants, il est pas sûr, en fait, que j'aille jusqu'au bout, je crois. Donc, quelque part, ça le rassure. Il dit, bon, bah, elle fait son truc, comme il y en a d'autres qui font du macramé ou qui vont courir, quoi. Je suis pas certain qu'il réalise que je vais en faire un métier. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour ma famille, notamment mon père, hein, le fameux père pour qui j'avais quand même choisi les écoles de commerce, qui lui aussi voit ça un peu en disant, bon, ok, c'est encore une de ses lubies, mais elle va pas quitter le marketing, le confort du salaire, etc.
Mais toi, bon. Tu sais, au fond de toi, tu sais que t'en feras ton métier.
Oui, moi, il y a un moment, c'est clair. Je sais, même quand je rentre à la fac,
c'est bon.
C'est clair, parce que je me souviens avoir retrouvé un carnet de notes qui est issu de ma formation en PNL, où on devait travailler sur les objectifs à court, moyen et long terme, ce qui est très PNListe. Et dans ce carnet, donc je suis pas encore rentrée à la fac de psycho, et il est écrit objectif dans 10 ans, être psychologue. Mmh. Et en l'occurrence, 10 ans après, je suis psychologue. Donc oui, c'était quand même bien en moi. Après, je me suis pas mis la pression, tu vois, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il y en a beaucoup qui abandonnent ce parcours-là quand même. Donc je me disais, tu fais une année après l'autre. Enfin, je me suis pas mis de pression sur le temps. Par contre, je savais que j'irais jusqu'au bout parce que c'est un peu mon caractère aussi. Mais je me suis dit, si tu dois mettre 5 ans pour avoir la licence, 4 ans pour avoir le M1, bah ça sera comme ça, parce que c'est un peu le cas hein, pour beaucoup. Et puis en fait, ça a déroulé assez vite. Hein. 7 ans, c'est assez rapide pour tout ce parcours, quoi.
Et donc tu disais, à partir du moment où ça commençait à prendre un peu plus de temps sur la vie familiale, c'est là où ça.
Et oui, ça a commencé à grincer parce que, par exemple, tu vois le stage où je le case. Donc quand je raconte ça, c'est toujours un peu hallucinant. Mais mon stage de licence, je l'ai fait en étant enceinte en fait sur mon congé maternité, ce qui est quand même assez incroyable. Quand j'y repense. Donc j'avais mon ventre énorme, hein, puisque c'était les dernières semaines, quoi. Et j'allais dans l'IMPRO de mon village. La psycho, elle avait accepté de me prendre 3 semaines en stage d'observation de licence. Allez, voilà, j'étais avec les jeunes et mon bide énorme. Voilà. Et puis les autres stages de master, je les ai faits sur mes RTT. Il y en a un que j'ai fait aussi sur mon deuxième congé mat. Donc tout ça prenait beaucoup de temps sur la vie de famille, c'est sûr.
Et du coup, si tu dis le père de tes enfants, j'imagine que vous êtes plus forcément
ensemble. Non, donc on s'est séparés en 2012, donc il y a 10 ans. Donc on s'est séparés un an après que j'ai mon diplôme. Donc lui, le pauvre, quelque part, il a supporté entre guillemets, hein, dans les deux sens du terme. Tout ça dans les années où c'était quand même le plus difficile, parce qu'après, moi, mon début de carrière, c'est quand même, de nouvelle carrière, c'est quand même globalement bien passé. J'ai rapidement trouvé du boulot et après, ça a roulé, quoi.
Et d'ailleurs, on peut peut-être faire un petit focus sur le couple, si t'es d'accord, ouais. Parce que c'est un vrai sujet dans les changements de vie, le fait que les couples aient du mal à tenir. Enfin, je ne sais pas s'il y a un chiffre qui existe là-dessus, mais voilà, c'est soit on devient soi et on se rend compte que la personne en face, bah finalement, elle est pas alignée avec qui on est. Soit c'est la personne en face qui se dit ah bah finalement, cette personne, elle est plus faite pour moi pour différentes raisons. Mmh. Moi, je l'ai vécu cet été. Et c'est vrai que enfin, alors il y a des couples. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des couples qui tiennent parce qu'ils s'étaient déjà, enfin voilà, l'alchimie était déjà là avant. Mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça?
Ah bah moi, c'est assez clair. Hein. Je me suis mis en couple avec le père de mes enfants pour des projections, hein, comme on fait toujours, parce que j'avais besoin d'un homme qui soit stable. Là où moi, j'étais quand même assez instable. Mais on était et on est toujours tellement différents, en fait. Donc, on s'est rencontrés. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on s'est rencontrés dans mon ancienne vie, c'est-à-dire qu'on travaillait dans la même boîte. Hein, lui était commercial, moi j'étais en marketing à ce moment-là. On se rencontre lors des séminaires, tout ça, et on se met très vite ensemble. Très vite, je quitte ma vie parisienne pour venir à Lyon. Je tombe enceinte, et puis un deuxième enfant suivra 2 ans après. Et en fait, alors il n'y a jamais d'erreur de casting parce que c'est aussi une belle histoire, notamment 2 beaux enfants. Et puis on s'entend très bien aujourd'hui, donc c'est quand même chouette au niveau de la parentalité. Mais par contre, par rapport à qui je suis vraiment et qui il est vraiment, Bon, il y avait peu de choses en commun. Donc, en plus, tu rajoutes à ça mes années d'études et ma reconversion dans un univers qui non seulement ne connaissait pas, mais en plus qui l'effrayait, qui l'effraie toujours encore d'ailleurs. Il sait pas trop ce que je fais d'ailleurs, il peut pas savoir. Je lui ai offert par exemple mon premier livre et je sais qu'il l'a jamais lu, quoi. C'est pas possible, quoi. Bref, donc il y avait effectivement des différences de fond sur les centres d'intérêt, mais aussi sur les valeurs, sur les aspirations. Je le remercie aussi du fond de mon cœur parce que il m'a aussi permis quelque part d'assurer une stabilité matérielle et puis morale quand même, parce que même si il n'était pas très joué à ce que je fasse tout ça, il m'a jamais empêché non plus. Donc ça, c'était quand même très précieux.
Ouais, c'est un vrai. C'est. Mais du coup, est-ce que t'étais lucide sur le fait que vous étiez très différents quand tu l'as rencontré?
Ah non, pas du tout.
Ouais.
Non, c'est les phénomènes de projection. Hein, bien sûr. Hein, on rencontre la rencontre d'un couple, ça se fait sur un niveau plus inconscient que conscient. Enfin, en tout cas, les jeunes couples. Après, c'est différent pour la deuxième partie de vie. Hein, enfin, espérons, puisqu'on a normalement un peu grandi en conscience et en capacité à voir ce qui nous drive. Mais bon, moi j'avais 25 ans, tu parles, 28 ans. Bon, voilà. Mais c'est un chemin de vie, ça a aussi amené plein de choses. Et puis ça m'a permis, donc pour revenir à cette reconversion, vraiment quand même de faire quelque chose qui était quand même pas si simple, hein, parce que quand je regarde avec recul ce que j'ai pu faire, d'ailleurs on me le renvoie souvent, on me dit « mais comment t'as fait pour faire tout ça ?» Bah en fait la réponse c'est « je sais pas ». Je pense que j'étais aussi un peu beaucoup même dissociée, hein, c'est-à-dire que j'étais assez coupée de mes émotions, un peu en mode robot, pilote automatique. Et j'ai déroulé ces années d'études tout en bossant, en étant assez coupée de mes émotions et d'ailleurs de mes enfants. Hein. J'étais une mère, moi, les premières années de mes enfants, j'étais quand même pas beaucoup là, physiquement, mais psychiquement pas beaucoup non plus. Voilà, je me suis rattrapée plus tard, mais j'étais un peu, si tu veux, j'étais dans plein de mondes différents. Souvent, je dis que j'avais une vie un peu schizophrénique à l'époque, parce que je faisais mon boulot de marketing, qui était quand même assez, dans des milieux assez superficiels. Le midi, par exemple, alors que tout le monde allait déjeuner, moi, je restais sur mon PC, et je faisais mes devoirs, parce qu'on avait plein de devoirs à rendre, des trucs. Et après, à 14 heures, je reprenais mon boulot de marketing, tu vois, enfin, j'étais dans des univers tellement différents.
Et d'ailleurs, comment ton entreprise, ils ont réagi au fait que tu suives cette formation?
Alors, quand je suis arrivée à Lyon, en fait, mon dernier job en marketing, c'était donc à Lyon, chez Materne. Et donc, j'y suis restée 4 ans ou 5 ans, je sais plus.
Donc, tu avais déjà commencé.
Donc, j'avais déjà commencé. Donc, tu penses bien que je l'ai pas forcément dit à l'entretien d'embauche. Mais rapidement, ils s'en sont rendus compte parce que forcément... j'avais besoin aussi de parfois de poser des jours, tu vois, pour les regroupements, les examens et tout. Enfin, une fois que j'ai signé mon CDI, parce que d'abord j'avais eu un CDD, donc là je disais trop rien. Mais une fois que j'ai signé le CDI, franchement, j'étais assez décontractée. Et au début, je pense qu'ils voyaient pas forcément de limites. Mais ce qui s'est passé dans notamment la dernière année, c'est que notre service, pour plein de raisons économiques, devait être il devait retravailler en fait la structure de salariale, et notamment il y avait quelqu'un qui devait en fait disparaître puisqu'il n'y avait pas les fonds suffisants, et on était 4 chefs de produit à l'époque, et en fait celle qui a été choisie pour être virée, c'était moi, ce qui était en fait une très bonne nouvelle, puisque la fin de l'histoire de cette première carrière, c'est que je me suis fait licencier. Ce qui était absolument la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que je suis partie avec le chômage, en plus un chèque assez confortable que j'avais réussi à négocier. Et puis plutôt que je n'avais espéré, en fait, parce que je pensais faire mon M2 en 3 ans, et en fait, finalement, j'ai pu le faire en 2 ans grâce à ça. Et des 4 personnes qui étaient là, ils m'ont choisi moi, clairement parce qu'ils savaient que je faisais des études, que j'allais faire autre chose. Donc autant me virer moi, hein, évidemment, hein, par rapport aux autres. Et puis aussi, je pense que je faisais un boulot qui était correct, mais qui était pas, j'étais pas du tout, tu vois, j'étais pas un high potential, comme on peut dire dans ces entreprises-là. J'étais pas vouée à faire une carrière incroyable en marketing. C'était pas ma voie, quoi.
Ouais. Et ça, à ce moment-là, quand ils te licencient, t'as quel sentiment ?
Alors, le licenciement lui-même a été quand même super rude parce que ils l'ont fait de manière assez abjecte pour des raisons économiques. Ils voulaient pas que ça leur coûte trop cher. Donc, je me suis trouvée un mardi, hein, je m'en souviens comme si c'était hier, il était 14h, ma chef de groupe qui me dit « Gwenaëlle, on se voit dans 10 minutes dans le bureau de la DRH ». C'est jamais terrible d'entendre ça, quoi. Mmh. Et donc, 10 minutes plus tard, je me retrouve face à ma DRH, ma chef, et donc j'apprends qu'ils ont décidé de se séparer de moi parce que je suis pas à la hauteur, clairement. Ils le disent comme ça, ça a été après mis... c'était pour incompétence ou quelque chose comme ça. Donc, narcissiquement, quand même, je me prends une grosse claque, super difficile. Et à 16h, je me retrouve avec mon petit carton, comme dans les films américains, quoi, sur le parking.
Ah ouais, ça a été hyper violent.
Mais hyper violent, avec mon ex qui vient me chercher. Et puis, je suis retournée qu'une seule fois pour signer ma fin de contrat, quoi. Donc, ça a été d'une violence... vraiment horrible, mais qui m'a enseigné aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris de ces 10 ans en marketing. J'ai beaucoup appris du relationnel, de la vie en entreprise, des bons côtés, mais aussi des côtés très, très sombres. Et alors là, le licenciement comme ça, bon, bah, après, tu penses bien, quand j'ai eu des patients qui avaient vécu des choses similaires, je voyais ce que ça pouvait être, hein, cette violence de l'entreprise privée, quoi, qui peut être juste sans remords et terrible. Donc, sur le moment, c'est quand même un gros choc. Ce qu'on appelle vraiment un choc traumatique en psychologie. Je me souviens avoir complètement buggé, avoir été sidérée, tout ce que tu peux vivre dans un état de choc. Mais en fait, très vite, le lendemain, je me souviens, j'ai comaté toute la journée dans mon lit en me disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'était quand même pas du tout prévu dans mon programme interne. Hein. Moi, je pensais faire encore un an de plus. Quoi. Et le surlendemain, je me réveille. Et là, éclair de lucidité, je me dis « Mais en fait, c'est génial. » Poum ! Et là, tout a changé, en fait. Et puis alors là, j'ai retrouvé donc toute mon énergie, j'ai pris un avocat, j'ai fait ce qu'il fallait pour récupérer l'argent qui me devait. Enfin, j'ai complètement transformé le truc.
Ah, t'as changé la posture et complètement. Du coup, ça change tout.
Voilà, ça a tout changé et je suis partie dans du jour au lendemain, en fait, je bossais plus. Donc du jour au lendemain, bah ça y est, j'avais enfin plein de temps pour finir mon master, du coup que j'ai fini plus tôt, faire mes stages. Du coup, j'ai fait plein de stages, alors que c'était pas prévu non plus. Enfin, c'était magnifique.
Ouais.
Tout ça avec l'assurance financière derrière. Enfin, donc merci la vie, quoi. C'était, ouais. C'est ce dont je parle beaucoup dans le livre. D'ailleurs, c'est la fonction des épreuves. Hein, sur le moment, tu te dis mais quel, c'est horrible. Mais en fait, c'est tellement de sens.
Il y a quelque chose que je surlignais dans ton livre. Tu disais que en chinois, l'idéogramme c'est de crise. Hein. Ça veut dire à la fois danger et à la fois opportunité.
Et oui.
Je trouve ça hyper un beau clin d'œil.
Oui, je le rappelle souvent en fait ça, que ce soit mes patients ou dans des conférences, parce que l'être humain est naturellement câblé pour voir le négatif. Hein. C'est notre cerveau qui est fait comme ça pour la survie. Hein. On le sait, c'est depuis la nuit des temps, dans la steppe africaine à l'époque, il fallait d'abord voir le danger. Et notre cerveau, il est toujours comme ça. Donc on voit d'abord le problème. Par exemple, là, je me fais virer comme une malpropre. Waouh, tu peux te dire c'est la fin du monde. Et d'ailleurs mon ex l'a vu comme ça. Hein. Sur le moment pour lui c'était la catastrophe. Quoi. Bon, mais en fait moi rapidement je me dis mais en fait c'est la meilleure opportunité qui pouvait m'arriver. Et ça c'est vrai pour beaucoup de choses. Alors après il y a des drames de la vie où il va falloir quand même beaucoup de temps hein, pour arriver à voir le beau hein, dans l'horreur ou le sens dans le non-sens. Hein. Mais là ça va. Enfin c'était un licenciement tu vois. Personne n'est mort quoi. Pas non plus un drame, on va dire, de vie. Mais sur un plan émotionnel, quand même, ça a été rude.
Ouais. Mais ça, c'est un truc, enfin, bon, je parle beaucoup dans le podcast. J'ai vraiment découvert ce concept de ce que je sais pas si tu la connais, Christine Michaud. Qui est québécoise et Christine, elle appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie et je trouve ça très joli et en effet, moi je sais que maintenant dès que il m'arrive quelque chose de pas cool, je me dis en fait il est où le cadeau et parce qu'en effet il y a toujours un cadeau derrière le burn-out, il y a eu un magnifique cadeau qu'on serait pas en train de se parler aujourd'hui et en effet il y a des situations bon quand on a la tête dans la situation dans la crise on s'en rend pas forcément compte, mais tu vois, moi, je vois, même si la séparation, j'ai eu un vrai choc post-traumatique suite à la séparation, parce que ça a été très violent. En fait, je savais qu'il y avait le soleil derrière. Alors, il y a encore des nuages, mais quand t'as compris ça et que tu l'imprègnes vraiment et que tu, qu'au fur et à mesure des jours, tu t'essayes de voir toujours le positif partout. Et en tout cas, c'est bon, être conscient qu'il y a du négatif, mais chercher le positif, ça change la vie. Hein.
Absolument. Hein. C'est voir qu'au fond du tunnel, même si celui-ci est parfois très sombre, très long aussi, hein, très éprouvant, eh bien, il y a la lumière. Hein. Moi, j'utilise aussi beaucoup la métaphore du soleil. Pour moi, on est tous des soleils. À partir du moment où on est vivant, ça rayonne en fait. Hein. Parfois, c'est difficile parce que on va vivre des choses tellement dures qu'on croit que le soleil ne brille plus. Hein. Ça peut être comme une éclipse. Une éclipse qui peut effectivement rendre le réel très sombre, très noir, très 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 dur à plein d'endroits. Mais en fait, c'est une illusion de croire que le soleil ne brille plus. Il est toujours là derrière. Et quand on est thérapeute, le job, c'est d'aider les personnes à réaliser que oui, en fait, ça brille quand même à un endroit, hein, ça brille toujours, mais se recontacter à ça, eh bien, parfois, c'est assez fluide, comme moi, tu vois, 48 ans après, tu vois, je me réveille, c'est quand même extrêmement rapide. Parfois, c'est beaucoup plus long et c'est là où on a besoin d'aide, en fait, pour aller le voir.
Clairement. Et après, enfin, j'imagine que tout tes études en psychologie, tout le travail que tu as fait sur toi, t'ont permis justement de pouvoir réagir aussi rapidement.
Oui, ça c'est certain. En fait, ce qui m'a permis de réagir aussi rapidement, il y a plein de choses, mais il y a déjà, je pense, ma force de vie, dans le sens où on n'est pas tous fait pareil, mais il y a certaines personnes qui ont comme un côté, selon moi, assez inné de guerrier, dans le sens que même s'ils vivent des trucs très difficiles, ils vont se relever relativement rapidement. Hein. Et pour moi, c'est sûrement lié aussi aux circonstances de notre vie intra-utérine, notre naissance. Bon, bref, il y a beaucoup de travaux qui montrent ça en ce moment. Et moi, j'ai ça en moi, et c'est un grand atout. Alors après, ça a aussi des limites, hein, parce que parfois, je peux aussi m'épuiser. Hein. C'est aussi des candidats à l'épuisement, les guerriers. Donc, faut faire gaffe à ça. Mais n'empêche que dans l'épreuve, il y a comme une flamme de vie qui reflambe assez rapidement. Et c'est ce qui se passe pour moi 48 heures après. Donc, ça, c'est ce qui m'a aidé. Après, ce qui m'a aidé, c'est que de manière très concrète, tu vois, j'avais presque fini mes études. Donc parce qu'en fait j'étais virée en mars et en septembre j'étais diplômée, en novembre j'ouvrais mon cabinet, 6 mois après j'avais mon premier job à l'hôpital. Enfin tu vois, ça a été hyper vite et tout ça j'ai eu le chômage. En fait j'ai même pas profité pleinement du chômage puisque j'ai réussi à gagner ma vie avant la fin, tu vois. Donc ça aurait pas été la même chose si on m'avait licenciée au début de mes études. Ouais. C'est quand même aussi un faisceau de circonstances qui était très très soutenante. Et puis après, comme tu dis, ce qui m'a aidée, c'est effectivement le travail sur moi. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi très très jeune, aussi lié à mes traumas d'enfance, et j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai toujours été dans une quête de connaissance de moi, de régulation de mes émotions, de découvrir aussi qui j'étais. Et évidemment, quand tu fais aussi des études de psycho, alors surtout quand c'est un peu tardivement, parce que quand t'as 20 ans, je pense que tu le vis pas pareil, mais moi, je les vivais pleinement, je pense, avec vraiment aussi la quête de savoir qui je suis. Et c'est sûr que ça aide de faire ce genre d'études.
C'est sûr. tu m'étonnes. Et t'as jamais vraiment arrêté finalement de te former depuis, parce que quand on va sur ton site et qu'on voit tes formations, je fais waouh. Il y a la PNL, la danse thérapie. Est-ce que tu disais aussi que tu faisais t'as été formée en tant que chamane, même si je pense qu'on n'est pas formé en tant que chamane.
Ouais, on dit pas ce mot-là.
Oui,
c'est ça. J'ai appris la pratique des soins.
Ça allait pas.
Ouais, la pratique des soins chamaniques, hein, parce que les chamanes, personne n'a envie d'être chamane. Hein, c'est pas un cadeau d'être chamane, c'est beaucoup d'adversité, donc c'est que quelques personnes.
Pourquoi tu dis que c'est pas un cadeau?
Ah, les vrais chamanes, selon vraiment la tradition, c'est des personnes qui dont la mission de vie est de voyager entre les mondes pour aider leurs compatriotes, hein, leurs frères et sœurs humains. Et voyager entre les mondes, eh ben c'est pas que voyager dans la lumière, hein, c'est aller voir aussi l'obscurité. C'est un monde, le monde chamanique, qui est loin d'être les petits papillons et les petits nuages et le petit soleil qui va bien. Hein. Donc pour avoir rencontré notamment une vraie chamane du Guatemala et avoir parlé avec elle. Quand elle a su qu'elle était désignée par son grand-père pour poursuivre en fait ce travail là sur Terre dans cette incarnation, elle aurait bien fait autre chose. Non. Ouais. Après, il y a les hommes et les femmes médecine. Ça, c'est une appellation différente qui désigne les personnes qui ont des capacités pour soigner les gens avec cette approche-là. Mais c'est pas pour autant encore des chamans pour moi. Les chamans, ils sont très rares. Puis après, t'as les thérapeutes qui s'intéressent à tout ça et qui sont sensibles à ça, ce qui est mon cas. Moi, j'ai fait effectivement des formations. Je m'ouvre à ce plan-là. Je pense que j'ai des perceptions qui m'aident, mais je reste très humble là-dessus parce que on va dire, c'est quelque chose qui me nourrit à plein d'endroits, mais comme le reste, hein, comme l'attachement, comme la psychologie énergétique et tout ce que j'ai pu faire effectivement, parce que t'as raison, j'ai jamais arrêté.
Ouais.
C'est toujours en cours d'ailleurs.
Oui, en fait, j'ai l'impression que à partir du moment où tu mets un pied dans le développement personnel, il y a tellement d'approches que du coup, c'est difficile. Enfin, il y a une grande curiosité qui fait qu'on n'a jamais envie d'arrêter.
Ben, ça dépend des tempéraments. Moi, j'ai des collègues psychologues, par exemple, ou thérapeutes qui sont pas forcément dans des soifs comme ça de découverte, hein, qui aiment ce qu'ils font, mais qui font aussi plein d'autres choses à côté. Moi, mon boulot, c'est ma passion, si tu veux. Donc, moi, quand on me demande, bah, justement, quelle est ma passion, déjà, je dis que c'est mon boulot, et quand on me demande ce que je fais à côté, bah, en fait, ce que je fais à côté, c'est, par exemple, si je pars faire un stage, moi, c'est un stage de travail sur soi, en lien avec des approches qui me passionnent. Enfin, tu vois, je fais pas vraiment de sport ou d'art ou des choses comme ça. Même l'écriture, qui est le domaine de création où je sens que j'ai des choses à faire. Et j'écris sur la psychologie, tu vois. Donc, c'est surtout la passion, en fait, moi, qui m'amène à être tellement là-dedans.
Et comment le vivent entre guillemets tes confrères parce que la psychologie ça peut voilà c'est un côté cartésien pas potentiellement le tout ce qui est chamanisme ou danse thérapie on oui. s'écarte un peu des codes comment c'est perçu.
Oui, et puis ce qui m'intéresse aussi beaucoup depuis quelques années c'est tout le champ de ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Où tu peux mettre d'ailleurs le chamanisme, hein, même si le chamanisme c'est quand même avant tout une tradition. Mais et moi je m'intéresse aussi beaucoup à la respiration holotropique. Je m'intéresse aussi au travail avec les psychédéliques, hein, qui est une vraie révolution qui arrivera bientôt, y compris dans notre pays. Donc tout ça c'est des approches effectivement qui peuvent paraître assez flyées, hein, assez perchées pour des psychologues ou des médecins plus classiques. Quand j'étais à l'hôpital, puisque j'ai dû arrêter mon travail à l'hôpital il y a un an et demi maintenant, mais j'étais perçue effectivement comme un peu atypique. J'étais pas la psychologue classique, déjà parce que je faisais de l'EFT, de la psychologie énergétique, hein, une technique un peu étrange quand t'es médecin ou tu tapotes des points d'acupuncture pour aider les gens. Donc déjà là, je sortais un petit peu du lot. Et puis alors quand il a été su, parce que je n'en parle pas ouvertement, mais forcément, quand on me demande où j'ai passé mes vacances et que je dis que j'ai passé 10 jours à faire un stage de chamanisme, bon, ça éveille une certaine représentation de moi. Là, effectivement, j'ai pu basculer sur une catégorie un peu étonnante. Mais moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des collègues plutôt ouverts, plutôt tolérants, ou en tout cas suffisamment gentil, correct pour ne pas être dans un jugement. Moi, contrairement à d'autres, hein, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Hein, je crois que peut-être énergétiquement, j'ai dû attirer des gens plutôt cool, et j'ai jamais dû défendre, tu vois, ma manière d'être ou de faire. Ça a toujours été très très cool.
Et ton entourage personnel, le fait que tu t'éveilles à tout ça, comment ils ont réagi?
Dans l'amitié, si je commence par ça, y a des tris qui se font en fait naturellement. J'ai pas du tout les mêmes amis aujourd'hui qu'il y a 10 ans et encore moins qu'il y a 20 ans, hein, évidemment, puisqu'il y a 20 ans je faisais du marketing. Aujourd'hui, je fais de la psychologie très transpersonnelle, donc c'est juste deux mondes très différents. Donc, je pense que mes amitiés ont évolué aussi avec ça et avec des amis qui me correspondent. Et après, dans mes relations amoureuses, voilà, j'ai expliqué l'histoire du père de mes enfants, hein, qui est dans son monde et moi je suis dans le mien, mais ça n'empêche pas qu'on s'entend très bien aujourd'hui pour les enfants. Et après, mes relations amoureuses, c'est pareil, elles ont un peu suivi. Hein. Là, je suis dans une relation plus stable depuis 5 ans avec quelqu'un qui, pour le coup, partage avec moi tout ça. Donc c'est, on travaille même ensemble. Donc c'est là, il y a quelque chose qui est vraiment chouette de pouvoir maintenant, à pas tous les endroits de ma vie, mais beaucoup d'endroits de ma vie, être dans une certaine cohérence, fluidité. Il y a peu de dissonance.
Ouais. Et tu disais du coup que t'as travaillé à l'hôpital, donc t'avais ton propre cabinet plus tu travaillais à l'hôpital.
Donc moi j'ai mon diplôme de psy en 2011, donc tu vois ça fait 12 ans maintenant. J'ai travaillé donc en cabinet libéral jusqu'à récemment, parce que j'ai voulu arrêter un moment, j'avais envie d'avoir plus de temps, donc j'ai arrêté mon cabinet physique. J'ai encore quelques patients, mais très peu. Et je me suis consacrée progressivement à la formation, parce que je suis formatrice aussi, j'ai un organe de formation depuis 4 ans, à la supervision, puis au stage thérapeutique. Mais ce que j'ai eu aussi pendant donc 10 ans, qui était très important pour moi, c'était un mi-temps, puisque j'ai donc pendant 10 ans fait mi-temps libéral, mi-temps institution, donc à l'hôpital. J'ai travaillé 10 ans en fait en psychiatrie, puis adulte, au CHU de Saint-Étienne. D'abord en CMP et puis après dans les services d'hospitalisation complète.
C'est quoi les CMP ?
Les CMP, c'est les centres médico-psychologiques. C'est des centres de consultation, on dit okay. Ambulatoires, c'est-à-dire dans la ville où tout le monde peut venir consulter.
D'accord.
Et après, j'étais en hospice, donc c'est vraiment des patients avec des troubles plus graves. Ouais. Et j'ai adoré ce travail que donc j'ai fait avec beaucoup de passion pendant donc presque une décennie. Et en fait, j'étais obligée d'arrêter puisque j'ai refusé de me faire vacciner en septembre 2021. Et donc, j'ai été virée du jour au lendemain. Hein, et c'est toujours le cas puisque les suspendus sont toujours interdits d'exercer. Ça fait 18 mois. La France reste le dernier pays au monde à ne pas avoir réintégré les suspendus. Donc ça, c'était un vrai travail de deuil parce que j'aimais tellement mon travail qu'il a fallu beaucoup de mois. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit ce dernier livre. C'était ma perte de sens à moi, en fait, cet arrêt de travail forcé. Et écrire, comme on le sait, hein, ça a beaucoup de vertus de régulation émotionnelle, de mise en sens, de prise de distance et de réajustement. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Là, maintenant, je pense que le plus gros du deuil est derrière moi. Mais je reste quand même très attachée à la psychiatrie, aux patients qui ont des troubles mentaux importants, et je sais que j'y retournerai un jour, pas tout de suite, ouais. Parce que j'en ai profité à nouveau, hein, la fonction de la crise, c'est que j'en ai profité là depuis un an et demi pour faire plein d'autres choses, donc à nouveau, hein, il y a toujours un sens à l'adversité, mais un jour j'y retournerai, c'est très très important pour moi.
Ouais. Tu disais, ce que je te disais hors micro, c'est que je nage beaucoup et en nageant, j'écoute le podcast Métamorphose et je me suis retrouvée avec plus d'épisodes en stock. Du coup, j'avais déjà écouté ton épisode avec Anne et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais te réécouter une deuxième fois. Et tu avais abordé une métaphore que je trouve très jolie du fait de dire que quand on change de vie, c'est comme il y a le trapèze et qu'il faut sauter pour attraper le trapèze.
Mmh. Oui, et il y a un endroit d'incertitude entre les deux, c'est parce ça. Qu'il va falloir sauter. Et le trapèze, il va pas tout de suite être dans nos mains. Mmh. Donc on vit cet entre-deux qui est évidemment très inconfortable, voire même parfois inquiétant, voire même terrifiant. Hein. Quand on vit un licenciement, par exemple, bon, le mien, franchement, ça a été très vite dans le retournement, mais pour avoir accompagné beaucoup de gens dans des cas de souffrance au travail, ça peut être vraiment des descentes aux enfers. Et puis toutes les épreuves, hein, le divorce, parlons pas de la perte de quelqu'un, toutes circonstances très adverses, il y a ce moment d'incertitude. Et le cerveau humain déteste l'incertitude. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est fait pour voir ce qui est source de danger, et on est là aussi pour trouver ce qui peut nous rassurer, donc ce qui est prévisible. Le cerveau humain va toujours chercher dans son environnement à mettre du sens au milieu du non-sens. D'ailleurs, c'est la grande fonction des religions, hein, pendant jusqu'à récemment, parce que j'aime beaucoup déserter les religions. La religion avait cette fonction de donner du sens à des choses qu'on comprenait pas. Hein. Par exemple, pendant longtemps, on pensait que les éclairs, c'était la colère de Dieu. Hein. Donc, il faut mettre du sens au niveau symbolique, il faut mettre du sens aussi avec les autres. En étant avec les autres, on met du sens à l'adversité. Ça, c'est très important. Et quand tu vis donc ce moment-là, là, entre les deux, avec tu lâches, mais t'as pas encore le trapèze, eh bien, quand t'es dans une grande imprévisibilité, typiquement quand on perd ton job, tu sais pas encore ce que tu vas faire demain, hein, ou quand même si tu l'as pas perdu volontairement, mais que tu décides d'arrêter, hein, que tu fais une rupture conventionnelle ou une démission, mais tu sais pas encore où tu seras demain, waouh! Et c'est là où il faut être soutenu par les autres, c'est là où il faut retrouver aussi, selon moi, une confiance dans plus vaste, hein. C'est là où je trouve quand on a une spiritualité incarnée, c'est-à-dire pas qu'il soit vraiment dans la matière, ça nous aide beaucoup. Mmh. Avoir foi, hein, la fonction de la foi là aussi.
Ouais, foi en la vie et se dire que ça va bien se passer.
C'est ça. Ouais. C'est ça, et qu'on est capable, on peut y arriver, qu'on ait ce soleil en fait, qu'on a tous un soleil particulier que moi j'appelle le talent, hein, et c'est pas forcément des trucs incroyables, hein, mais on a tous un talent singulier, une capacité, ça peut être écouter les autres, ça peut être créer des objets ingénieux, ça peut être très bon pour la régulation des conflits ou plein d'autres choses, et de découvrir ça, et donc parfois c'est grâce à une épreuve, et de le mettre dans la matière, dans le réel, pour moi, c'est le grand sens des épreuves.
Ouais. Ça m'a fait sourire parce que, donc là, t'as écrit un livre qui s'appelle « Traverser la perte de sens chez Erol ». Et dans la conclusion, tu dis qu'on est tous une personne exceptionnelle. Et j'ai fait un TEDx en mai dernier et qui s'appelle « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». Et je conclue pareil en disant voilà qu'on est tous une personne exceptionnelle et que justement quand on est aligné avec qui on est, quand on sait pourquoi on est là, quand on connaît ses talents, quand on découvre sa zone d'ombre, qu'on l'accepte et que du coup ça laisse passer la lumière, ça nous permet de réveiller cette personne exceptionnelle qu'on est parce qu'on est tous en effet exceptionnels.
Absolument. Et moi, d'avoir travaillé 10 ans donc en psychiatrie avec des gens très abîmés, évidemment, qui eux sont loin d'adhérer à ce qu'on vient de dire, tu vois, ils diraient plutôt mais non, la vie elle est juste terrible et je suis juste rien. Et bien d'accompagner des personnes qui sont dans des telles difficultés, moi ça m'a vachement appris sur. Ok, au milieu vraiment du noir, eh bien il va falloir trouver un début de lumière, quoi. Des fois, j'ai sorti mes rames, hein, plus d'une fois. Mais moi, je suis toujours partie du principe que si la personne, elle est vivante, si elle est là devant moi, c'est qu'il y a un sens à son existence. Hein. Et pour avoir en plus travaillé beaucoup avec des personnes suicidaires, donc qui voulaient partir, mais hein, qui étaient face à moi, donc manifestement, ça ne marchait pas. Et ben, c'est qu'il y avait un sens. Hein, un sens, en l'occurrence, par exemple, à l'échec des tentatives de suicide. Hein, dire, ok, si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a un sens. C'est quoi le sens, hein? Si quelqu'un est chrétien, par exemple, je vais dire, si Dieu ne veut pas de vous, hein, comme j'ai dit une fois de manière très émouvante à une patiente, c'est qu'il y a quelque chose à trouver, hein, dans la signification, dans le sens, dans la valeur, en fait, à votre présence sur cette terre. Et ça, des fois, alors, hein, c'est pas miraculeux, mais on va dire que ça permet de changer d'énergie, hein, de passer du grand désespoir à « Ah, ok, il y a peut-être un petit truc, quoi ».
C'est ça, quelque chose qui s'éclaire.
Exactement.
Ouais. Ça me fait penser à deux de mes invités du podcast qui ont essayé de se suicider. Je pense à Anne Cazobon, que tu connais peut-être, qui est d'ailleurs chamane maintenant. Mm-hmm. Et Anne, elle était sur un quai de métro prête à sauter. Mm-hmm. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a parlé. Et cet homme lui a sauvé la vie. Je sais plus ce que cette personne lui a dit, mais ça lui a sauvé la vie parce qu'en fait, elle s'est dit, bah non, en fait, je saute pas. Et donc, elle a pris en main le parcours de sa vie. Et je pense aussi à Philippe Croizon, que tu connais sûrement, qui a traversé la Manche sans bras et sans jambes.
Ah oui.
Et Philippe, il a essayé de se suicider. Donc, il était sans bras, sans jambes. Il a essayé de se suicider, mais il s'est bourré la gueule. Sauf qu'il dit, déjà, marcher avec des prothèses, c'est compliqué. Mais bon, se bourrer la gueule, c'est encore plus compliqué. Il avait prévu de sauter dans une rivière parce qu'il s'est dit, au moins, je vais couler direct avec ses prothèses. Et puis, en fait, il a cherché le courage, entre guillemets, dans l'alcool. En fait, il est sorti de sa voiture et en fait, il est tombé directement. Il n'a pas réussi à se relever, donc il n'a pas réussi à tomber dans l'eau. Et bon, aujourd'hui, voilà, Philippe, il a plus que rebondi, c'est le cas de le dire. Et c'est un message formidable d'espoir parce que
Absolument. Ouais. Mais oui, l'espoir. Hein, l'espoir, c'est vraiment C'est, pour moi, la symbolique de l'espoir, c'est la flamme. Et donc, je parle souvent de ça, de la flamme intérieure, qui parfois, effectivement, est toute petite. Hein. Mais à nouveau, si on est vivant, elle existe. Donc, comment on va vraiment attiser cette petite flamme par petite chose, hein. Par exemple, quand t'es en grande dépression, c'est insupportable d'entendre que la vie, elle a du sens, qu'il y aura forcément un moment que ça ira mieux. Il y a des moments où tu peux pas entendre ça. Donc, dans ces moments-là, quand tu accompagnes, eh ben, t'es à côté, hein, et tu consoles, comme dit Christophe André, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle La Consolation, et qui dit, hein, de son expérience de psychiatre, qu'il a appris un peu sur le tard à quel point, en fait, le principal, c'était jamais les mots ou les techniques, c'était être à côté d'eux, hein, être au chevet d'eux. D'ailleurs, la psychologie clinique, par exemple, clinique, ça veut dire être au chevet d'eux. Et d'être juste là. Et ça, en fait, ça va attiser la flamme, hein, petit à petit. Et à un moment, on mettra peut-être des mots. À un moment, on cherchera des solutions concrètes. Hein, mais en respectant tellement finement et respectueusement, voilà, ce temps, en fait, psychique.
Ouais. Comment t'écoutes ton intuition ?
Mon intuition. Mon intuition s'est beaucoup développée en devenant psy, pas tant évidemment par les formations, hein, on imagine bien, mais par l'exercice de mon métier avant tout, et puis aussi par le travail sur soi, d'aller à la rencontre de mes zones sombres, hein, de pouvoir les accueillir le mieux possible, de les traverser, et ainsi faire effectivement de la place pour autre chose, de l'énergie, de la lumière, de l'intuition. Et aujourd'hui, je vois que il y a des moments quand je suis avec quelqu'un, mais ça peut arriver aussi même en conférence ou en formation, hein, quand je transmets, il y a des choses qui me viennent, qui m'étonnent après. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où je me dis, mais qui parle ? Qui parle à travers moi ? Et c'est particulièrement touchant quand je suis avec un patient où il m'est arrivé parfois d'avoir... juste les quelques petits mots qui avaient besoin d'être dits. Et ça, c'est des instants juste magiques, hein. C'est des instants de flow, hein, vraiment le flow qui est vraiment cette fluidité en fait de l'instant où on est juste au bon endroit et où le bon geste, le bon mot, parfois c'est juste le regard, hein, qui est exactement parfait par rapport à ce dont a besoin la personne. Et ça, je trouve ça tellement... déjà, c'est merveilleux, enfin je m'ébahis à chaque fois de ça. Et puis l'autre vertu de ce développement de l'intuition, qui pour moi en fait surtout de l'alignement, c'est que c'est tellement plus reposant. Tu vois, moi je me souviens mes premières formations, j'étais quand même assez stressée parce qu'évidemment tout ce qui est nouveau est stressant par définition. Et là je vois bien quand j'ai à transmettre, quel que soit le cadre, une fois que j'ai fait le minimum de préparation pour être voilà, logistiquement pas stressé. Après, en fait, je sais que ça va aller, que j'ai en fait cette aide qui vient d'ailleurs, qui va être présente. Si par exemple j'ai une question difficile, par exemple quand je fais une conférence, je peux être stressée des questions qui pourraient me mettre, tu vois, à un endroit inconfortable. Je suis un peu stressée, mais pas longtemps, parce que je me dis, mais en fait, t'inquiète, les mots vont te venir. Et ça, mais du coup, je vois bien que je fais mon métier de manière beaucoup plus reposante qu'avant. Je sais que ça va venir, en fait. La plupart du temps. Hein. Parfois, je peux aussi bugger, évidemment.
Mais tu restes humaine.
Voilà, mais ouais. Évidemment.
Comment tu célèbres tes réussites ?
Comment je célèbre mes réussites ? Je fais rien de particulier, mais intérieurement en fait je savoure en fait l'effet qui est très très chimique d'ailleurs, hein, on sait bien dopamine, sérotonine, tout ça c'est quand même bien connu. Je peux par exemple, tu vois, en parlant à quelqu'un après, prolonger cet effet-là. Par exemple, là, je viens de passer 2 jours à Paris où j'ai fait pas mal de choses pour ce livre. Et j'étais vraiment contente d'en parler à mon chéri en rentrant, de lui raconter, bah alors, il y a eu ça, etc. Et ça, c'est une manière pour moi de célébrer, bah, c'est, par exemple, ces 2 jours où il y a des réussites, en fait. Donc, de le partager, Et puis ça me donne surtout en fait ces moments-là de l'énergie pour continuer, parce que je travaille quand même beaucoup, hein, même trop à des endroits, donc je peux être aussi fatiguée parfois. Mais de savourer ces moments-là, tu vois, ça me donne envie de continuer à des endroits où parfois je me dis Gwen, allez là, tu n'y vas pas. Bah si, en fait, j'y vais. Et puis bon, parfois j'arrive à dire non aussi, parce que ça fait partie aussi de l'équilibre. Voilà.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Je prends un exemple très très récent. Hier matin, j'ai fait un enregistrement en direct dans une radio. J'avais jamais fait ça. Quand on m'a proposé ça, comme mon éditrice, elle m'a dit tiens, il y a cette opportunité. C'est une émission sur la quête de sens sur Radio Notre-Dame. C'est super par rapport à votre bouquin, Gwenaëlle, faut que vous y alliez. Oh, sur le moment, on s'est dit, oh, ah ben non, une radio, enregistrement, direct, oh là là, j'avais l'image, tu sais, du plateau, puis en plus, c'était vraiment comme ça. Et puis, en fait, assez vite, il y a cette petite voix qui dit, bah, en fait, pourquoi pas? Hein, tu rappelles-toi, ma chérie, dans ces moments-là, je prends soin de moi, tu as eu exactement la même réaction la première fois que tu as dû faire une conférence en public, la première fois que tu as dû animer une formation, la première fois que tu étais devant un patient, etc. Assez rapidement, ça c'est à mon avis, je pense aussi mon petit côté guerrier, engagé, je me dis, mais en fait, pourquoi pas moi, hein, y a plein de gens qui y arrivent. Voilà, plein de choses comme ça, sur des petites choses.
C'est quoi pour toi la réussite ?
La réussite, c'est être, devenir, hein, ce qu'on est depuis toujours. Alors, deviens qui tu es depuis toujours, c'est une phrase de Jung, hein, ce psychiatre que j'adore, que je cite très souvent dans mes transmissions. Et cette phrase, elle est tellement puissante. Hein. C'est deviens qui tu es, mais alors le depuis toujours. Ça, c'est tellement, c'est la touche finale. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est d'arriver à recontacter sa nature profonde, ce fameux talent, ce pourquoi on est là. Moi, je parle aussi du mandat d'incarnation. Pourquoi on s'est incarné là dans cette vie ? Qu'est-ce qu'on a à y faire ? Et le faire, hein, parce que il y a des gens qui sentent ce pourquoi ils sont faits, mais après il y a des freins. Hein, la vie nous met des freins. Il y a notre histoire, plein de raisons assez connues. Il y a la psychologie, mais pas que. Et de pouvoir dépasser ça, hein, traverser les peurs notamment, et répondre au pourquoi pas moi, tu vois. Et le mettre dans la matière, hein, avoir aussi cette empreinte sur le réel qui est tellement importante, surtout dans notre monde qui est quand même vachement déconnecté. On est beaucoup dans le virtuel, hein. Je vois, bah, mon ado de 16 ans, il ne jure que par les youtubeurs, par exemple. Bon, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais aussi comment est-ce qu'on peut être aussi vraiment dans la matière, quoi, parce que nous sommes des êtres incarnés. Et pour moi, la réussite, c'est dans cette incarnation, accomplir ce pourquoi on est fait. Ce pourquoi on est descendu, hein, parce que moi j'ai vraiment une vision de que nous sommes des êtres avec une âme, hein, qui vibre de vie en vie à l'intérieur de nous, et qu'à chaque incarnation on descend pour faire quelque chose de précis. Et pour moi c'est ça la réussite.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Gwenaëlle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Bah déjà elle serait étonnée, elle dirait oh waouh tout ça. Parce que des fois, je m'étonne moi-même, mais vraiment de manière assez humble. C'est vraiment un étonnement en disant, ben, c'est quand même assez... Ou quand les gens me disent, ah bon, mais vous avez fait tout ça. Et des fois, je réalise, je dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Et en même temps, tu vois, quand je les ai fait les années après l'une après les autres, tu vois, ça me paraissait pas ouf, comme dirait mon fils. Donc, elle serait déjà étonnée, tu vois, de ce que j'ai pu faire alors que j'ai que 46 ans. Donc, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va encore se passer après ? C'est génial, c'est excitant. Et puis, je crois que une autre chose qui me vient, tu vois, c'est de se sentir moins seule, hein, de se dire... parce que je me suis quand même sentie très seule pendant mon enfance. Et la petite Gwenaëlle, de me voir être là où je suis aujourd'hui, elle dirait, waouh, ben... puisque selon un espace quantique, en fait, hein, tout est le même instant, de dire, bah, en fait, je suis triste et en même temps je suis joyeuse, hein. Je suis seule et en même temps je suis si accompagnée, hein. Elle sentirait ça. C'est ça que je lui enverrais aussi. Que je suis avec elle.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements?
Moi, j'ai du mal à... Dans ma propre vie, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de renoncements. Et j'ai un peu du mal avec l'idée du qui est très judéo-chrétienne du sacrifice, tu vois, du truc... si vous voulez être heureux, va falloir un peu vous flageller, quoi. Très, très culturel, ça, qui est en nous, hein, qu'on soit croyant ou pas. Moi, j'ai plutôt une vision que... Si on croit que on perd quelque chose, c'est juste c'est une croyance. C'est-à-dire que c'est un peu une illusion. Par exemple, moi quand j'ai été licenciée, bah c'est sûr que sur le moment il y a quand même du stress au niveau financier. Mais en fait, la suite a bien montré que c'était complètement une illusion, hein, que je renonçais pas à grand chose. Donc moi j'ai plutôt tendance à répondre à ta question en disant, en fait, on va surtout renoncer à nos projections, nos illusions, des croyances sur nous qui, en fait, nous protégeaient. Hein, par exemple, j'aurais pu me dire, ah ben non, faut que je continue le marketing parce que, au moins, là, je suis sûre d'avoir un poste, du boulot, de l'argent, ma retraite, etc. Ce qui était un peu le discours, d'ailleurs, de mon ex. Tu vois, j'aurais pu rester là-dedans, et en fait rester dans ce confort et à un moment d'être précipité par la vie, eh bien là tu renonces en fait parce que la vie là elle m'a bien bousculée un peu de manière peut-être un peu brusque, ça aurait pu être brusque pour d'autres, mais en fait ça a tellement de sens. Donc c'est renoncer surtout à nos peurs. Ouais. En fait la peur qui aurait été de plus avoir d'argent assez ou d'autres choses.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
La plus grande difficulté... Le plus grand défi, moi, que m'amène la vie, je pense que c'est la parentalité. C'est d'être mère, vraiment. Et c'est ce qui m'a fait le plus grandir. C'est ce qui continue à me faire le plus grandir. Puisque... Moi, j'ai eu une maman qui était quand même pas très bien psychologiquement, anxieuse, dépressive, hein, et qui décédait prématurément. Moi, j'avais 16 ans. Et puis un père qui était pas là. Donc être parent, tu vois, pour moi, c'était quand même un sacré défi. Mais je suis devenue quand même mère assez jeune, hein, à 30 ans, alors que j'aurais pu la renoncer à ça, tu vois, et être dans mes peurs. Mais ça a été des claques énormes de devenir mère. C'est mes plus grandes angoisses, c'est lié au fait d'être maman, et ça l'est encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est le vrai défi, en tout cas de mon existence. Hein, pour d'autres, ça peut être l'amour, qui a pas été simple non plus pour moi, mais là-dessus, je pense que j'étais plus aidée. Mais je sais que dans mon mandat d'incarnation, il y a ce que j'ai à faire dans mon boulot, mais il y a aussi à être une meilleure mère, pour moi, symboliquement, et à travers mes enfants, que ce que j'ai pu avoir dans mon début de vie là, dans celle-ci et dans d'autres incarnations.
Et puis à travers ton boulot aussi, soigner des mamans.
C'est ça. D'où la petite statuette, tu vois, de la Pachamama dont je te parlais au début, bien sûr.
Ouais. C'est quoi, au niveau professionnel, tes plus grandes peurs?
Si, il y a une peur qui est encore en moi, assez fortement parfois. C'est typiquement, tu vois, d'être dans une conférence ou un moment de partage et que quelqu'un remette en question de manière forte et violente ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est quelque chose qui peut me faire peur. Par exemple, si je suis donc à une conférence devant, je sais pas, des dizaines de personnes et qu'il y en ait un à la fin qui dise... Non mais Madame Perciot, ce que vous avez dit sur ça, 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 en fait, je suis absolument pas d'accord avec vous, c'est faux, parce que, par exemple, moi, je donne souvent des références, je cite, et pas seulement des psychologues, parfois, je sors un peu de ma zone de confort. Je peux citer des philosophes, tu vois, Spinoza, par exemple. Sauf que je suis pas philosophe, par exemple, je suis pas spécialiste du tout. Et parfois, j'ai peur que, tu vois, d'avoir un revers, là, de quelqu'un qui serait un sachant, hein, donc ça, c'est un peu mon côté petite fille, je crois. Qui me balait d'une ou deux phrases et d'être dans un moment, tu vois, de grand malaise, voire de honte. Donc, j'ai ça parfois. J'essaye de calmer ça parce que sinon, je vais attirer ça un jour. Donc, j'ai pas du tout envie de le vivre. Mais ça parle aussi d'un endroit de moi qui est évidemment comme tout le monde, hein, n'est pas toujours tout à fait sécure, tout à fait confiant, qui peut douter. Et en même temps, j'observe que ça m'empêche pas de faire, quoi. Parfois, j'ose aller dans des thèmes ou des sujets que je ne maîtrise pas, mais qui me passionnent, donc je tente quand même. Mais parfois, j'ai peur de ça. C'est une des
petits syndromes de l'imposteur aussi, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de choses dont ils maîtrisent rien du tout et ça les dérange pas.
C'est ça. Alors, parfois, je me dis, mais Gwen, attention, là, tu vas dans un endroit. Mais dans ce cas-là, tu vois, je prends un peu des précautions oratoires. Je dis, bon, bah là, je vous parle par exemple de philosophie. Bon, je suis pas philosophe, mais ça me parle. C'est comme ça que je le comprends. Et du coup, ça permet aussi de me redescendre mon stress, quoi.
Ouais.
Je crois que c'est une peur qui est encore là. Après, j'en vois pas trop d'autres parce que j'ai tellement observé, tu vois, depuis 10 ans, depuis que je suis devenue psycho, que la vie est tellement généreuse avec moi. C'est fluide, les choses, elles arrivent. Que ça a vraiment fait grandir ma confiance, en fait.
Parce que t'es à ta place.
Et oui, je crois, parce que je suis à ma place, en fait. Donc, il y a quelque chose qui est vachement plus confort, quoi.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
J'ai d'abord envie de parler de mes enfants, quand même. D'être une bien meilleure mère avec eux, là, qui sont ados, que quand ils étaient tout petits. D'avoir pu guérir des blessures, des traumas quand même assez balèzes d'attachement. Ça, c'est une grande satisfaction et une fierté aussi, je crois. Parce que j'ai une belle relation avec mes enfants, qui vont plutôt bien. Et puis, au niveau professionnel, quand je vois les retours que j'ai de mes bouquins ou de transmissions orales, et que je lis, que j'entends que les gens sont vraiment aidés par ce que je dis ou ce que j'écris, que ça les a fait rebondir dans des moments où vraiment ils étaient dans le noir ou qu'ils ont vu un sens différent et que ça a changé la donne. Là, je suis vraiment très contente parce que je me dis c'est des petites graines. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé à écrire. C'était pour diffuser en fait plus largement ce que je faisais tous les jours avec mes patients ou à l'hôpital. Et j'avais envie de diffuser, de donner à plus vaste en fait.
Si tu croises une personne demain et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre?
Je dirais que la chance, c'est peut-être le hasard et que la définition du hasard par Einstein, c'est Dieu qui se balade incognito sur Terre.
Là, je la connaissais pas, celle-là.
Einstein aurait dit ça. Il a dit, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito sur Terre. Donc, pour moi, Dieu, c'est l'énergie, c'est la puissance de la vie, c'est les cadeaux de la vie, c'est la fonction de la crise, que dans toute épreuve, il y a un sens, qu'en fait, on est très aidé, mais parfois, on a un masque devant les yeux et on ne voit pas, mais en fait, il y a des aides partout. Hein, c'est les synchronicités dont parle Jung très bien aussi, hein, les coups de pouce de la vie, les cadeaux mal emballés dont tu parlais. Et je dirais que s'ils voient la chance comme ça, bah oui, alors dans ce cas-là, j'étais très aidée par la chance.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que, du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui?
Eh bien, peut-être aussi l'action, parce que pour compléter ce que je viens de dire, donc la chance, la vraiment dans le sens de l'énergie qui nous aide, elle existe, mais il faut aussi agir. Il y a cette phrase que j'aime bien qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Hein, c'est ça la phrase complète. Et cette phrase, je la tiens pour mienne depuis très longtemps, avec les premiers mots, qui est « Aide-toi ». Tu recevras les aides, c'est sûr, mais il va falloir un peu te bouger, quoi.
Si tu restes assis sur ton canapé,
et il va rien se passer. Hein, tu peux lire la psycho, la philo, écouter tous les podcasts que tu veux toute la journée, mais si à un moment tu sors pas de chez toi pour être dans la matière, hein, que ça soit, je sais pas, envoyer un CV, oser parler à quelqu'un, sortir tes baskets et courir et je ne sais quoi d'autre, le monde ne va pas changer parce que nous sommes le moteur de notre vie, en fait. Donc, je vais citer Spinoza, pour le coup, qui parle de la puissance d'agir, hein, qui dit bien que la joie vient de la puissance d'agir, et qu'à l'inverse, la tristesse vient de l'impuissance. Et effectivement, pour avoir travaillé avec des patients très dépressifs, c'est l'arrêt de la vie, en fait, hein, la dépression, et dans ce cas-là, la tristesse est immense, parce que tu as l'impression que tu ne peux plus agir. Et tout le travail avec quelqu'un qui est dépressif, c'est ça, c'est d'inverser, c'est de retrouver notre petite flamme dont on parlait tout à l'heure, et commencer par des petits pas. Donc la puissance d'agir, non seulement elle nous permet de d'être dans la joie, mais elle nous permet bien sûr d'accomplir hein, ce pourquoi on est là.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Eh bien, j'ai envie de parler de ma mère en fait, qui est partie quand j'étais jeune, mais ma mère, elle me parlait pas beaucoup, mais elle incarnait quand même une force en fait. Elle a pas eu le temps de le faire, mais elle avait des ambitions. Elle était infirmière, ma mère, puis après cadre. Et je sais qu'elle, et ça m'émeut de parler d'elle. Elle aurait voulu aller plus loin. Elle voulait fonder notamment une clinique avec des médecins. J'ai découvert ça après sa mort. Et elle avait, même si la vie en a décidé autrement, elle avait envie de faire des choses en fait. Et je crois que d'avoir vécu avec cette maman ces 16 années, ça m'a imbibé de ça. Je pense que elle m'a donné ça en fait, qu'il va falloir. Et je suis très émue de la s'entendre, de parler d'elle, que la vie c'est quand même une sacrée aventure, que c'est chouette d'avoir des ambitions, c'est chouette d'avoir des désirs, c'est d'aller de l'avant, c'est pas de rester assis sur son canapé. C'est une femme très dynamique et en même temps prise par la dépression, il y avait une grande ambivalence en elle, mais il y avait aussi une force en fait, une force de vie qu'elle m'a donnée en fait et que j'ai toujours en moi.
C'est quoi tes prochains défis?
Mon grand défi actuel, c'est de trouver un équilibre dans ma vie, en termes de temps. Parce que je travaille beaucoup, encore trop. Et par exemple, je passe pas assez de temps à faire du sport. Bon, ça n'a jamais été mon truc, mais en plus, les années passant, on se rend compte que quand même, il va falloir s'occuper de ce corps, hein, s'il veut qu'il nous accompagne bien jusqu'à la fin. Donc typiquement, je passe pas assez de temps à m'occuper de mon corps, à faire du sport, à être dans la nature, à être avec mon chéri, à être avec mes enfants. Parce que quand on est passionné, c'est génial d'être passionné, hein, mais alors c'est un peu moins génial pour ceux qui vivent avec vous. C'est très dur de vivre avec des passionnés, je crois. Oui. Et puis ça a aussi ses limites, quoi. Et donc moi, mon grand défi, c'est de trouver un équilibre entre nourrir ce que j'aime, quoi. Donc ma passion, c'est très important, et en même temps arriver à dire non, poser mon téléphone, mon portable, et à aller faire complètement autre chose, tu vois. Ça, c'est... Ouais. J'y suis pas encore. Hein.
Ouais, c'est le vrai enjeu. Hein. Enfin, je suis passionnée, mais par plein de sujets différents. Donc, je suis pas spécialiste, mais je suis passionnée par plein de sujets. Et en effet, il y a des moments où tu dis, t'es avec tes enfants, t'as envie de profiter d'eux, mais en même temps, t'as ce truc où t'as envie de creuser ce sujet. Et
c'est ça. Donc, j'aspire à une sagesse qui devrait venir avec l'âge, j'espère. Et puis sinon, il va falloir que je la développe pour voilà. Être plus posé quand même.
Oui, puis le sport, c'est arriver à trouver le sport qui te fait du bien et qui fait que tu as envie après d'y aller, quoi.
C'est ça.
Petit challenge.
C'est ça. C'est mon grand défi.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et là qui sentent clairement qu'ils ont une perte de sens? À part évidemment de lire ton livre Surmonter qui permet de traverser la perte de sens, mais oui, avant qu'il le lise.
Il n'a rien d'une formule magique, hein, évidemment, c'est tellement complexe tout ça. Ce qui me vient, c'est développer une curiosité envers soi-même, envers tous ces soubresauts de la vie, hein, et y compris les plus difficiles, hein, qu'on n'a pas forcément envie de creuser forcément, mais d'aller. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. S'il peut susciter ne serait-ce qu'une curiosité en se disant, tiens, ce que je vis, c'est peut-être pas que pourri. Il y a peut-être un truc à comprendre dans l'épreuve. Si déjà il y a ça, tu vois, qui peut arriver au niveau du conscient chez certaines personnes, je serais super contente. Et après, bien sûr qu'il y a mille choses. Hein. Il y a la vertu du petit pas, hein, de la première action. Il y a la vertu de la relation, hein, qui est un atout absolument essentiel dans notre vie. Il y a aussi la foi en plus vaste, hein, la confiance aussi en plus grand, la spiritualité va aussi là, et plein d'autres choses. Mais s'il y avait un premier petit pas, ça serait, ok, si ce que je vis a une vertu, que peut-être je peux absolument pas voir maintenant parce que je suis trop dans le noir, mais que je me fais un peu le pari que plus tard je la verrai. Ok, ça change quand même la donne.
Et est-ce que, selon toi, alors, j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. Certains ont traversé des crises, des épreuves, soit la maladie, soit un décès qui leur a fait ouvrir les yeux, mais du coup, ils ont finalement tous été un peu en choc post-traumatique et donc du coup, ils se sont mis en chemin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Pourquoi pas moi, c'est que je pense que il faut pas attendre un accident de la vie pour se dire pourquoi pas moi et oser y aller. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui justement hésitent avant même qu'un accident de la vie soit arrivé?
Se rappeler que la vie, elle est courte quand même. Ce que j'ai envie de témoigner aussi, c'est que moi, je pense que ce qui m'a donné cette soif de vie, ce côté guerrier, c'est... Bon, déjà, je pense que c'était déjà en moi, hein, parce que déjà adolescente, j'avais ça. Mais je crois que aussi, d'avoir perdu ma mère si jeune, hein, elle avait 44 ans, ça m'a tellement imprégné, tu vois, cette réalité que la vie, elle est courte quand même. Hein, et pour avoir accompagné des gens de tout âge, on sait bien qu'on ne se voit pas vieillir en fait. Hein. Et puis un jour on arrive, le corps bah, il est plus aussi fringant, il y a plein de possibilités qui ont diminué et on se dit merde. Il est toujours temps de faire plein de choses passionnantes, hein, même sur les dernières décennies, hein, évidemment. Mais n'empêche que quand par exemple tu veux accomplir vraiment un gros changement de métier, une reconversion, c'est quand même plus confortable de le faire. Hein, typiquement, c'est alentour de entre 30 et 40 que le faire à 50 ans. Donc, rappelez aussi ça, c'est une lapalissade ce que je suis en train de dire, mais que la vie, elle est courte, elle passe toujours beaucoup plus vite qu'on ne croit, toujours, et que en fait, elle est d'une richesse incroyable. Enfin, moi, là, je vois à 46 ans, j'ai déjà eu au moins deux grandes vies, hein, et je serais pas étonnée que je découvre encore d'autres choses. Dans les décennies à venir. Donc, c'est incroyable, cette richesse.
Ouais. Et au tout début de l'interview, tu disais que tu n'avais aucun souvenir de ton enfance, que c'était l'amnésie.
Pas beaucoup, comment, en tout cas.
Ouais. Comment tu l'expliques? Comment ça s'explique, le fait qu'on soit amnésique
Ça s'explique très bien aujourd'hui en psychologie, et notamment la psychologie du traumatisme. On connaît, en fait, les mécanismes neurobiologiques qui ont lieu dans le cerveau, qu'on appelle la dissociation, en fait, quand on a vécu une enfance difficile. Et quand je dis difficile, hein, beaucoup de gens pensent il y a eu de la violence, des coups, de l'inceste, des choses comme ça, des grosses pertes. Donc ça, c'est évidemment, ça existe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traumas d'omission. Hein, c'est quand il s'est pas vraiment produit des choses, mais on a surtout manqué. Donc manqué de présence parentale, manqué de câlins, manqué de compliments, manqué de soutien. En fait, hein, c'est ce qu'on appelle... trauma d'omission, dans le sens, ce qui a fait traumatisme, c'est surtout ce qui n'a pas eu lieu. Et donc, que ça soit les traumas manifestes ou les traumas d'omission, quand ça a duré longtemps, hein, et surtout si la personnalité était plutôt sensible, hein, parce que ça sera encore plus fort, eh bien, tu peux avoir des phénomènes donc de dissociation, qui concrètement, c'est de l'amnésie, puisque l'enfant, plus tard l'ado, peut-être, peut continuer encore l'adolescence, se protège en étant dans une zone un peu d'inconscience, c'est-à-dire que il fonctionne, hein, il est là, il va à l'école, il fait ce qu'il a à vivre dans sa vie d'enfant, mais le vécu émotionnel en lien avec ce qu'il vit dans sa vie n'est pas là, et c'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est, en gros, tu fonctionnes, un peu presque au radar parfois, mais l'émotion ne s'imprime pas. Et si l'émotion ne s'imprime pas, les souvenirs ne s'impriment pas. Parce que pour garder en mémoire un souvenir, qu'il soit positif ou négatif, il faut une émotion très forte. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi j'ai un souvenir très précis du moment où on a annoncé la mort de ma mère. Parce que l'émotion était tellement forte que là, tu vois, là c'est quelque chose de très très fort. Mais pendant longtemps, parce qu'après je l'ai retrouvé grâce à la thérapie, je n'avais pas de souvenir de ce qu'il y avait eu juste après, tu vois, tous les jours qui ont suivi. Parce que mon cerveau, en fait, il a été traumatisé, évidemment. Et donc, il y a eu un afflux d'hormones, hein, qu'on connaît bien, la kétamine, la morphine, qui m'ont dissocié pour que je puisse continuer à fonctionner. En l'occurrence, aller au lycée à cette époque. Mais émotionnellement, j'étais complètement coupée. Et c'est ça qu'on appelle la dissociation. Et donc, tu peux vivre ça sur des années où, en fait, t'es là, mais t'es pas vraiment là. Mais tu peux, notamment grâce à la thérapie, retrouver. Hein. Moi, j'ai retrouvé aussi, grâce aux photos, tu vois, et puis le travail en thérapie, des choses qui sont revenues un peu à ma mémoire.
Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous?
Oulala, alors là, moi, la lecture, tu sais, c'est encore une autre passion. Je déborde de livres chez moi. Mon chéri, il se plaint parce qu'il est obligé de construire des nouvelles bibliothèques régulièrement. Donc, choisir un seul livre, c'est toujours hyper difficile pour moi. Me vient quand même, parce que je me plonge beaucoup dans la pensée de Jung, là, depuis pas mal de mois. Et je voudrais à nouveau parler, j'en ai déjà parlé de ce bouquin, je crois, mais du bouquin de Frédéric Lenoir, hein, sur Jung, qui est un petit trésor, hein. Frédéric Lenoir, il a ce talent de nous amener de manière accessible des pensées complexes, hein. Il a fait la même chose avec Spinoza, d'ailleurs. Et ce bouquin, je trouve qu'il ouvre à la psychologie des profondeurs, que nous a transmis Jung, mais aussi à la philosophie, à la spiritualité, donc c'est d'une grande richesse.
C'est Jung, un voyage vers soi.
C'est ça.
De Frédéric Lenoir.
Voilà, merveilleux, merveilleux bouquin.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Eh bien, j'ai envie de remercier ma mère. Hein. C'est un peu très émouvant pour moi d'avoir pu parler de ma mère aujourd'hui. Puis je vais confier aussi que aujourd'hui c'est un jour particulier puisqu'on est le 23 mars 2023 et ça fait exactement 30 ans que ma mère est partie au pays des étoiles. Donc c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'elle était très présente dans mes paroles aujourd'hui, ouais. ce qui est quand même très très rare que je parle de ma maman. Donc j'ai envie de la remercier parce que elle et moi, je pense qu'avant de m'incarner, on avait fait ce contrat qu'on allait vivre ça, que ça allait être dur pour toutes les deux, mais que ça allait aussi nous faire grandir, hein, sur un plan subtil de l'âme. Et elle, là où elle est, je crois qu'elle continue son chemin. Et moi, je continue mon chemin dans cette incarnation pour être qui je suis.
Merci beaucoup, Gwenaël.
Merci à toi, Charlotte.
J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.